BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission avec vous consacrée à la vie en entreprise. Que vous soyez patron, salarié, indépendant, vous connaissez le principe. Vous nous écrivez à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On vous répond tous les jours à 12h30 sur BFM Business. Vous pouvez aussi scanner le QR code qui apparaît sur votre écran. Aujourd'hui, on va parler des patrons qui ont su rebondir, faire d'un échec un succès. Ils vont vous parler de leur expérience, de leurs doutes, de leur environnement, bref, de ce qui s'est passé avec leur entreprise. Mes experts du jour et mes patrons en l'occurrence, parce qu'il y a beaucoup de monde sur ce plateau. Philippe Fourquet, président des associations 60 000 rebonds. Ça va Philippe? Ravi de vous retrouver dans cette émission. Vous êtes accompagné de Luc Farry, entrepreneur dans le bâtiment. Dans quelle ville, Luc?
Luc Larry, pardon.
Oui, exactement, j'ai mal lu. Vous êtes dans quelle ville?
Paris.
Et vous êtes aussi ambassadeur de 60 000 rebonds. Vous êtes fait aider pour gérer cette entreprise. On parle souvent de l'importance de l'accompagnement. Là, on va voir réellement à quoi ça correspond. Dimitri Pivot, président fondateur de Second Souffle, est avec nous également. Bonjour Dimitri.
Bonjour Sandra.
Et vous êtes accompagné d'Aurélie Ribet. Vous êtes entrepreneuse, vous avez créé votre boulangerie à Paris. Bienvenue dans l'émission.
Bonjour Sandra.
Ravi de vous retrouver. Vous allez donc un petit peu témoigner de ce que vous avez vécu en tant qu'entrepreneur. C'est un contexte compliqué, puis quand on est patron d'une petite structure, même parfois d'une grande, les difficultés sont quotidiennes et ça ne s'arrête jamais. Première question de Lilian. Pour vous, Luc, comment sont apparus les premiers signes de difficulté et sur quoi faut-il être vigilant? On va rappeler un petit peu déjà ce que c'est que votre business.
Mon business, je travaillais pour les promoteurs immobiliers, je faisais du placo et de la menuiserie dans tout ce qui est logement, surtout en Ile-de-France. Je faisais entre 1200 et 1300 logements par an. Je travaillais avec tous les majeurs de la place de Paris. Voilà. Donc, comment nous avons vu que c'était un peu difficile?
Oui.
La trésorerie déjà. La trésorerie, elle avait plus 45 jours, elle avait 90, voire 60, voire 120.
Les délais de paiement?
Très longs.
Ouais.
De plus en plus longs. Après Covid, c'est devenu de beaucoup très difficile.
C'est ça qui vous a mis en danger?
Le Covid, non. Le Covid, j'ai travaillé, j'aurais pas pu autant travailler que je n'ai fourni. Les promoteurs étaient très contents, on a livré tous leurs produits.
Donc le boulot était fait, mais après, ils ont choisi de vous payer plus tard.
Bah, parce qu'ils ont surtout plus vendu. Après le Covid, ils vendaient de moins en moins. Les prêts n'étaient plus là pour le consommateur accédant.
Mmh.
Donc du coup, eux n'ayant plus de sous, ils rallongeaient les délais de paiement.
C'était quoi la grandeur de votre structure?
J'avais 25 personnes actives dans mon entreprise et 350 sous-traitants qui ne travaillaient que pour moi.
Et quand on dit qu'on regarde la trésorerie, est-ce qu'on est dans un moment où on finit par ne plus se payer?
Alors, ça, c'est le deuxième, c'est le deuxième lot, ce que je dis souvent à les entrepreneurs que j'aide avec 60 000 rebonds. Je leur dis... Déjà, si vous payez entre 1500 euros ou 2000 euros, et si vous vous dites, moi si je vais attendre le mois prochain, déjà c'est pas normal.
Mmh.
Pourquoi on se paye pas? C'est que ça va pas.
Mmh.
Donc pourquoi le mois prochain ça irait mieux? Puisqu'on pourra pas rattraper ce qu'on a perdu.
Mmh.
Donc déjà, dès que je me paye plus, c'est pas normal.
Philippe, on le dit souvent, être attentif aux signes, discuter, rencontrer ses pairs, ne pas rester dans la solitude pour justement identifier ses premiers signes de difficulté.
C'est très clair, et il le met bien en avant. Hein. D'abord, le suivi de votre trésorerie ou de la trésorerie de l'entreprise, c'est primordial. Hein, malheureusement, très souvent, c'est mis un peu de côté, ou parce qu'on a le commercial, on a d'autres choses qui passent devant, on doit aller trouver de nouveaux clients et autres, et on ne regarde pas bien ce qui se passe au niveau de la trésorerie.
Mmh.
Et quand on commence à s'occuper de cette situation-là, souvent, il y a déjà pas mal de difficultés qui sont engagées. Donc, attention à ça, effectivement, Luc le dit bien, et on l'a souvent dit, hein, le fait de ne pas pouvoir se payer est un signe très fort. Très très fort dans les premières difficultés.
Luc, vous vous identifiez aujourd'hui en regardant ça avec du recul comme ces difficultés, comme une erreur personnelle de surveillance, de j'ai pas regardé certains indicateurs ou un contexte général, parce que vous l'avez dit, c'est les conséquences du Covid.
Moi, c'est un contexte général parce qu'en fait j'avais beaucoup de suivi avec des experts comptables, je travaille beaucoup avec mes experts comptables et les avocats. Donc moi c'était surtout le contexte d'aujourd'hui, c'est de les promoteurs n'allant pas bien, je suis l'effet cascade de s'ils ne vont pas bien, je ne vais pas bien.
Ouais.
Ce qui est dommage, puisque le travail était fait.
Mm-hmm.
Mais alors, c'est ce que beaucoup de promoteurs ne se disent pas, c'est qu'il n'y a pas que moi. Moi, je faisais vivre beaucoup, beaucoup de familles et beaucoup de gens après moi. Donc, du coup, bah, eux, c'est encore pire puisque bah, c'est des travailleurs à la tâche. Et bah, quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus de travail. Quoi.
On va regarder un petit peu l'exemple de, d'Aurélie. Vous êtes boulangère. Vous avez une entreprise de combien de salariés?
On va être 8 au mois.
8 dans le mois. Elle a combien de temps, cette boulangerie?
Je l'ai ouverte il y a 8 ans.
Et comment sont apparues les premières difficultés? Est-ce que ça a marché, puis ça n'a plus marché? Ou ça n'a jamais réellement marché parce que c'était une petite structure? Boulangerie, ça marche bien quand même, mais comment ça s'est passé pour vous?
Ça a très bien marché au départ, et j'avoue que même aujourd'hui, ça continue à bien marcher. Je n'ai pas de difficultés financières. La difficulté, elle est arrivée plus sur le côté... physique, enfin la capacité à tenir physiquement
la pénibilité du travail,
ouais. La charge mentale, parce que je suis seule à gérer l'entreprise, donc c'est la charge mentale de gérer les équipes, l'administratif, la comptabilité avec bien sûr un comptable, mais toute cette charge mentale, et on est dans un métier où on produit tous les jours à nouveau. Et donc, quand on a des absences de personnel, on est tout de suite impacté. Donc, ça met tout de suite dans l'urgence. Donc, on fait des sauts de entre ça va, puis tout d'un coup, ça va plus.
C'est les montagnes russes.
Voilà. Ouais. Et à un moment donné, on ne sait plus. Je ne savais plus comment gérer.
Sortir de cette situation.
Voilà.
Vous étiez avant ces 8 ans, vous étiez salariée ou vous avez toujours été entrepreneuse?
Ah non, j'ai été salariée pendant 25 ans et dont une vingtaine d'années dans le secteur bancaire.
Ah oui, donc rien à voir. Et vous vous êtes dit un jour, je vais ouvrir une boulangerie.
Je me suis dit que j'avais envie de changer de vie, d'avoir une part un peu plus créative, travailler plus avec mes mains. Et je me projetais pas 15 ou 20 ans de plus dans ce secteur-là, donc quitte à changer, autant aller vers quelque chose qui, en tout cas, m'a parlé.
Et... pour le coup, vous avez vraiment choisi un secteur porteur. Tout le monde a besoin de sa baguette le matin. On est en France, ça marche très très bien les boulangeries. Enfin, ça, pour le coup, c'est un commerce. Sur le business model, il n'y avait pas réellement d'erreur à identifier. C'est intéressant ce qu'on dit là, parce que souvent quand on parle ensemble, Dimitri et Philippe, ce sont les difficultés financières qui émergent en premier. Là, c'est pas le cas.
Je prenais mes petites notes justement,
parce qu'en Dimitri.
Fait, très souvent, ça tourne autour de la trésorerie, et c'est vrai qu'on l'a dit régulièrement ici, on parle de X KPI à suivre, en fait, indicateurs à suivre, mais il n'y en a qu'un seul qui est vraiment à surveiller comme le lait sur le feu, c'est la trésorerie.
Oui.
Ça, c'est clair. Et donc, souvent, les difficultés d'entreprise viennent de la trésorerie. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Et c'est pour ça que le cas d'Aurélie, il est excellent. Parce qu'en fait, Aurélie, elle a une entreprise. Financièrement, il n'y a pas de problème. C'est une entreprise qui tourne très bien. Mais par contre, elle a un problème de charge mentale, de difficulté. Elle a un problème... Je ne veux pas parler en votre nom, Aurélie. Hein. Quand on vous a accompagné, vous l'avez bien précisé. Un problème RH... difficulté de trouver du personnel.
En plus, qui pourrait éventuellement compenser la pénibilité physique aussi, c'est-à-dire vous remplacer.
Exactement.
Ouais.
Et donc on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les difficultés des entrepreneurs, c'est en effet pas que la trésorerie. C'est une somme un peu globale.
Multifactorielle, c'est ça.
Donc,
plusieurs facteurs.
On parle de la trésorerie, on parle des RH, c'est la boulangerie, c'est le porteur, on va toujours acheter notre baguette de pain.
Absolument.
Mais quand on n'arrive pas aujourd'hui à avoir des collaborateurs pérennes, je rappelle quand même qu'il y a 4 millions de petites entreprises en France de moins de 10 collaborateurs, et par rapport aux chiffres que vous donniez tout à l'heure, les entrepreneurs qui ne se paient pas, il y a 1 million d'entrepreneurs qui se rémunèrent en deçà du SMIC, d'accord. Donc c'est important à rappeler, parce que donc ça veut dire qu'il y en a un paquet qui travaille quasiment pour rien, ok. Et puis à côté, 6 millions de sans emploi, on va dire de chômeurs, 4 millions d'entrepreneurs, dont 1 million qui tirent le diable par la queue, on voit bien qu'il y a un décalage.
Ouais.
Et quand on cherche des entrepreneurs pérennes, on les trouve pas, des salariés pérennes, pardon, on ne les trouve pas. Donc il y a une équation à résoudre, et je ne veux pas parler encore une fois en bouton, mais j'avoue que quand on arrive le matin, qu'on reçoit un SMS à 7h ou 8h, parce que vous avez appelé deux fois le collaborateur et qu'il n'est pas là, ou la collaboratrice d'ailleurs, et qu'il n'est pas là, et puis que vous entendez dire par SMS, je suis malade, je ne viendrai pas ce matin, et puis peut-être pas non plus demain matin, et puis peut-être pas non plus après-demain. Ben vous êtes comme deux ronflants.
Oui, c'est ça. Dans une entreprise de 250 salariés, ça ne fait pas de différence, a priori, non. sur les deux jours qui viennent. Mais dans une structure de 8 personnes, ça devient quand même très compliqué tout de suite. Et les ennuis se multiplient. Je reviens à vous, Luc, sur cette identification des difficultés. Qu'est-ce que vous avez mis en place sur le moment ? Parce que vous l'avez dit, c'était contextuel. C'était le secteur qui allait mal, au final. Le secteur qui avait du mal à payer. Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on fait en tant que patron ? C'est quoi les armes qu'on utilise à ce moment-là ?
Déjà, dans mon secteur, moi, ce que je fais, c'est qu'on arrête d'aller sur le chantier. Mais si vous arrêtez dans mon métier, si vous arrêtez d'aller sur le chantier, bah, le client, il ne vous paye pas.
Oui.
Même si ce n'est pas de votre faute. Donc, il vous dit, si tu ne viens pas, je ne vais pas te payer. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu retournes sur le chantier. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, on peut me le dire, vous pourriez me le dire, bah, c'est ta faute, puisque tu as continué à aller travailler. Oui, mais si je ne vais pas travailler, ils vont me mettre des pénalités de retard et ça va s'allonger. Et d'un dossier X, je ne vais pas prendre la somme complète. Donc, je suis obligé de continuer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, tout simplement, on a essayé de réduire les effectifs sur les chantiers pour éviter justement de payer pour rien. Et puis, on a surtout été avec voir les banques pour renégocier avec nos créanciers, avec nos fournisseurs pour nous aider à travailler ensemble. Mmh. Donc, au début, ça s'est très, très bien passé. Mais plus le temps avançait, les portes et les téléphones se fermaient en nous disant bah là déjà, on est déjà très loin, on ne peut plus rien faire.
Donc la réaction du secteur, le fait de mettre ces retards en place, ça met complètement en danger le business de la boîte.
Oui, ben là on voit bien ce qui se passe. Il se passe la mise en place d'une spirale.
Le cercle vicieux.
Un cercle vicieux. Hein, donc j'ai plus de trésorerie, donc il faut que je me batte pour essayer de faire encaisser les créances. Je vais moins sur les chantiers. Si je vais moins sur les chantiers, je rencontre moins les clients. Et puis peut-être il y a des malfaçons ou des choses qu'on ne voit pas parce que sur les chantiers, ça ne se passe pas bien.
Ouais.
Et progressivement, on tombe dans une boucle qui est extrêmement complexe à traiter parce qu'on a beaucoup de choses auxquelles il faut faire
face. Et il y a un timing, donc il faut réagir vite, j'imagine. Oui. Vous avez mis combien de temps à réagir, Luc, entre le moment où vous avez commencé à vous dire, bon là, ça ne va pas ?
On a mis réellement, on a mis le bouton, on a appuyé sur le bouton, ça a mis 4 mois.
Ouais. Mmh.
Avant, ça faisait déjà un an qu'on essayait de redresser. Mais le problème dans mon métier, je pense que dans beaucoup, c'était très dangereux quand j'ai commencé ma profession dans le bâtiment il y a 20 ans, c'était de se dire, ce chantier-là va payer l'autre. Mmh. On m'a dit, il faut jamais faire ça. Et on a toujours essayé. Mais là, à la fin, je me suis dit ça il y a 20 ans, et là, je suis en train de me dire, celui qui paye celui-là. Ouf, non, là, c'est plus possible.
La leçon qui
et là, c'est malheureusement...
Il faut réagir vite.
Une situation qu'on rencontre, ouais. Hein, où de plus en plus, avec la trésorerie étant très courte, on sert de ce qu'on encaisse comme à compte sur certains chantiers pour pouvoir terminer ceux qui ne sont pas encore terminés. Mm-mm. Et donc là, on fait de la cavalerie. On n'a pas le droit de le faire, bien évidemment. C'est clair. Attention à ce qu'on fait.
Dans un cas comme ça, il faut diagnostiquer rapidement le problème. Mm. Il faut se faire accompagner.
Il faut médiateurs. Il faut un médiateur.
Ah, en fait. Le médiateur pour les délais de paiement. Hein.
C'est important.
Oui, c'est
important.
Pierre Pelouzet est un peu avec nous.
Oui. J'avais peur de ça. Oui. J'ai eu peur de ça, de me dire, exact. Si je fais ça, avec le client, il ne voudra plus me recevoir. Mais en fait, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, j'accompagne des gens grâce à 60 000 rebonds qui sont dans le bâtiment. Je dis, on va aller voir un médiateur. Et en fait, les clients, ils disent, peut-être qu'il faut que je réponde pourquoi, comment. Ok, je vais peut-être pas tout lui donner, parce qu'il ne mérite pas tout, mais au moins, je vais lui en donner une partie. Je ne vais pas lui enlever tout ce qu'on lui doit.
Ouais.
Et ça aide.
Ça aide, effectivement. Ça aide. Philippe, pour...
Oui, donc effectivement, on l'a dit, l'accompagnement d'autres pairs aussi, hein, c'est important parce que on est vraiment seul par rapport à. Je parle en son nom, mais je pense qu'on a déjà souvent parlé ensemble. On est vraiment seul quand même si on a un expert comptable, même si on a un avocat, même si on a des personnes autour de soi. Au fond, c'est bien nous qui dirigeons l'entreprise et qui prenons les décisions ou pas par rapport à cette entreprise. Hein. C'est pas les autres. Et donc, un pair, ça donne aussi un autre regard. C'est pas lui qui va prendre à votre place, mais lui, il a la même légitimité que la vôtre. Il a eu aussi une entreprise où il la gère actuellement. Donc, il va vous donner un regard très pertinent par rapport
La solitude du manager, oui. Hein, vous l'avez vécu aussi, Aurélie ?
Oui, la solitude du chef d'entreprise, oui, effectivement.
Vous avez pu comparer avec la vie d'avant ? D'ailleurs.
Oui, et ça m'a quand même fait penser à mes anciens patrons. J'ai une pensée pour eux.
Ouais, c'est ça.
Et c'est pas parce qu'il est entouré plein de monde qu'il n'est pas seul.
Oui.
Attention, hein, souvent on a tendance à faire un raccourci en disant à partir du moment où il s'entoure de plein de monde, il reste fondamentalement seul.
On veut toujours montrer tout va bien chez nous.
Oui.
On a beaucoup de mal à dire C'est compliqué.
Bah, on a peur du risque réputationnel.
Tout à fait.
Ils sont un peu en difficulté.
Les concurrents vont le savoir.
Voilà,
non,
les concurrents vont savoir. Vous avez mis combien de temps pour réagir, Aurélie, quand vous avez commencé à identifier que vous étiez seule, que le métier était pénible, le métier que vous aviez choisi pourtant, qui faisait sens réellement, qu'il y avait des difficultés de personnel. Tout ça, vous avez mis combien de temps à le conscientiser et ensuite à réagir, à vous faire aider?
J'ai mis un an, je pense, à vraiment m'en rendre compte et à le subir physiquement de manière puissante. Et après, je suis partie en vacances pendant 3 semaines. Et au retour des vacances, ça s'est pas du tout arrangé. Et là, je me suis fait. Là, j'ai tiré le signal d'alarme tout de suite.
Oui, c'est
donc,
ça.
Voilà. Là, j'ai pas attendu, même si mes proches savaient que j'allais pas très bien. J'en parlais un peu avec mes collaborateurs, mais pas trop non plus, parce que c'est pareil. Les collaborateurs, on est là pour les motiver, pour leur donner le cap. Donc, on peut leur montrer que c'est pas simple, mais faut pas non plus trop montrer. Et effectivement, après, assez rapidement, j'ai été en contact avec Second Souffle.
Quand on écoute souvent les patrons qui ont mis du temps, qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour se faire mettre tant de temps à se faire aider, Dimitri? Quel est le déclic qui doit arriver à un moment? C'est la santé physique où là, ça se dégrade totalement. C'est la santé financière où là, on sait que le mois prochain, on pourra pas faire vivre l'entreprise. C'est quoi qui fait que, bon, bah là, je peux plus faire autrement que de me faire aider?
Vous savez, sur ce plateau, on s'est quelquefois dit, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Vous vous rappelez? Les femmes sont beaucoup plus pragmatiques face aux difficultés. Elles se tournent plus rapidement vers les autres pour se faire aider que les hommes.
Si c'est un de nos avantages. Excusez-nous, dans le monde de travail, il n'y en a pas tant que ça.
Il y a peut-être aussi une question d'égo chez les hommes. Attention.
Non, mais c'est ça en fait, Philippe.
Je peux y arriver tout seul, c'est le côté.
C'est ça, voilà. C'est un peu comme au casino. D'abord, je suis un peu plus costaud que les autres, peut-être, et je vais me refaire demain. Je ne fais pas. Et Luc, vous l'avez bien dit, je pense que demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est surtout pas une faiblesse. C'est une force. C'est être lucide face à sa situation. Et ça, c'est vraiment le message clair qu'il faut faire passer aux entrepreneurs, d'ailleurs de petites boîtes comme plus grosses boîtes d'ailleurs. Demander de l'aide, c'est un signal de lucidité, c'est une force. Qu'on soit homme ou femme. Et Aurélie, vous avez mis aussi un certain temps, un an, mais parce que vous étiez dans un commerce, d'abord vous étiez, je parle en votre nom, mais vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, où en fait, vous n'avez, comme dirait Olivier Torres, vous n'avez pas le temps d'être malade.
Oui, on a les mains dans le cambouis.
Et même Olivier Torres, davantage. Et Olivier Torres dit parfois, j'ai même pas le droit d'être malade.
Encore plus, on ne s'autorise pas en tant que patron.
On ne s'autorise pas, mais les collaborateurs ne l'autorisent pas non plus. Parce que s'ils ne vous voient pas, ils trouvent ça bizarre.
Oui, ça...
Beaucoup.
Mais il y a un moment donné, c'est la charge mentale, le psychologique et le physique qui vous le rappellent. Quand le corps lâche, là, je fais quoi? Et là, on ne se pose plus de questions. C'est là-dessus que vous avez appelé Second Souffle. Vous êtes fait accompagner en 4 mois. Et quand on vous connaît de septembre, on vous connaît maintenant, c'est le jour et la nuit.
Oui, ça
voilà.
Et la boulangerie, elle va comment?
La boulangerie, elle va bien. La boulangère, elle va mieux.
Elle va mieux. Exactement. Comment vous avez fait? Vous êtes fait aider au final? Vous avez trouvé quelqu'un qui vous seconde et qui peut aussi, un jour d'absence, prendre votre place? Comment concrètement vous avez trouvé quelle solution?
Alors, les solutions, ça a été effectivement un accompagnement externe parce que j'avais besoin de sortir de ma boutique et d'avoir un regard extérieur. Donc ça a été la partie de Second Souffle. Et puis sur le recrutement, ben là dernièrement, je me fais un peu plus aider par des boîtes, des entreprises qui proposent de l'intérim, parce que moi, j'arrivais plus à recruter, lire les CV, recevoir les candidats, donc faire appel à de l'intérim, c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis plusieurs années, donc je me suis dit allez, on repasse par cette phase-là. Et ça soulage, ça règle pas tous les problèmes, mais ça soulage.
Non, bah ça c'est la vie de l'entrepreneur. De toute façon, c'est gérer des problèmes qu'on n'avait pas imaginé la veille. Ça c'est vrai qu'on le voit et on l'entend beaucoup sur ce plateau. Déléguer, se faire aider. Philippe, il y a une dimension psychologique là-dedans. On en parlait il y a un instant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le patron, tant qu'il a pas dit ça va pas, je vais pas y arriver, il se dit toujours que sa boîte ça va bien en fait. Il fait l'autruche quoi.
C'est l'entrepreneur et parle aussi sous contrôle d'Aurélie et puis de Luc. Il s'est toujours battu. Il a toujours eu des choses auxquelles il devait faire face. Je peux pas dire des emmerdes, mais il en a toujours eu. Donc, aller demander de l'aide et autres, il s'en est toujours sorti tout seul. Ce qui est plus embêtant, c'est quand l'accumulation, on l'a parlé tout à l'heure, de ses ennuis devient tellement importante que là, il ne pourra pas s'en sortir. Et c'est cette bascule-là qui est parfois complexe à faire et qui se fait souvent, malheureusement, trop tard. Hein, mais c'est ça. Parce que, il a toujours eu. Il n'a pas eu. Alors, il y a aussi le regard sur l'échec. Il y a aussi l'échec, c'est un truc qu'on met sous le tapis
en France,
ça va pas m'arriver, je vais m'en sortir, et puis j'ai pas envie de dire quand je suis avec mes dans les réseaux d'entrepreneurs, j'ai pas envie de dire que ma boîte ça va pas, quoi. J'ai pas envie de dire que j'ai des problèmes de trésorerie, j'ai pas envie de dire que je suis épuisé physiquement, j'ai pas envie de le raconter. Et parce que c'est mon image aussi, et faut le comprendre, on est tous pareils, hein, c'est mon image qui va en subir les conséquences. Et ce regard sur l'échec, cette forme de stigmatisation ou parfois d'auto-stigmatisation, elle joue pour ne pas demander de l'aide, pour hésiter à demander de l'aide ou retarder le fait de demander de l'aide.
Luc, concrètement, cet accompagnement, il vous a, dans l'ordre, apporté quoi ? Qu'est-ce que ça a débloqué pour le business ?
Pour le business ou pour moi perso ?
Les deux, mais pour aussi à la fin la survie d'entreprise.
Quand je vais bien, le business va bien.
Oui.
Donc moi déjà quand 60 000 euros m'a récupéré, m'a ramassé, je peux le dire réellement. J'ai marché sur les quais de Seine avec un coach, puisque chez 60 000 Rebonds, vous avez un coach et vous avez un parrain. Et là, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est du n'importe quoi. J'ai marché 4 heures, je ne sais pas ce que c'est. J'ai dormi là-dessus. Le lendemain, je me réveille, j'ai appelé ma coach et je lui ai dit, est-ce qu'on peut recommencer à marcher ? Elle m'a dit, pourquoi ? J'ai dit, parce qu'en fait, j'ai compris plein de choses. Et ça m'a ouvert, en toute honnêteté, hein, je ne sais pas parce que Philippe est là, 160 000 rebonds. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai la capacité de vous parler aujourd'hui parce que j'ai pensé à plein de choses.
Ouais. Hein,
j'étais plus loin.
On va vite au bout psychologiquement après, c'est ça, ça va vite.
On pense à plein de choses. Hein.
Ouais.
Je fais pas de dessin. On pense à plein de choses. Maintenant, j'ai une femme que j'aime beaucoup et ma fille aussi. Je grâce à eux, je suis revenu. Mais grâce à 60 000 rebonds, je me suis reconstruit. J'ai pu raconter mon histoire à des gens et aider d'autres entrepreneurs qui sont dans cette situation.
Ouais, ça fait partie de votre bon cette expérience-là. Maintenant,
je dois donner
la partager.
Maintenant. Il faut que je la donne.
Partager. C'est intéressant, Dimitri, parce que ce qu'on dit souvent ici, c'est qu'au final, presque quand on crée son entreprise, il faudrait déjà prévoir cette dimension-là d'accompagnement, c'est-à-dire quels signes justement je dois surveiller, physique, financier, psychologique, qui doit m'accompagner, un comptable, un juriste. Enfin, c'est quelque chose, à mon avis, qu'on sous-estime à la création de la boîte.
Il y a plusieurs choses. Tout à l'heure, on parlait des rémunérations. Nous, on est toujours surpris, et je pense que c'est pareil pour Philippe, de voir des entrepreneurs qui viennent nous voir en nous disant « je suis au bout de mes allocations chômage et comme j'étais payé avant, mon entreprise aujourd'hui ne fonctionne plus parce que je ne peux plus me payer, parce que je ne suis plus payé par le chômage. » Mais en fait, ils n'avaient pas mis dans leur business plan
leur propre rémunération.
Alors que c'est un postulat de départ, quand on fait son business plan, on met sa rémunération, même si on est financé par le chômage. Premier point. Après, dans les chiffres clés, tout à l'heure, vous parliez, on pense à beaucoup de choses. J'aime à dire, quand on présente nos chiffres, il y a un chiffre clé, c'est le nombre d'entrepreneurs qu'on accompagne. Le deuxième chiffre clé, c'est pour répondre à votre question, c'est dans les créations d'entreprises, 50%, quasiment 50%, ne passent pas le cap des 3 ans. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'on doit expliquer à tout créateur d'entreprise que 50% ne passe pas le cap des 3 ans. Donc, c'est quand même une forte probabilité, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, de malheureusement échouer. Donc on doit prévoir dans les modules de formation le fait de devoir cesser son activité ou de liquider son activité et comment on rebondit. Ça, c'est à prévoir dans les formations à la création d'entreprise. Hein.
Ouais. Hein mais il faut quand même dire, Dimitri, en complément de ce que tu dis, ceux qui sont accompagnés, parce que le chiffre de 50%, c'est ceux qui créent entreprise tout confondu, mais ceux qui sont accompagnés, le taux de survie à 3 ans, il est bien plus important.
Donc, ça
rejoint ce que Sandra disait tout à l'heure.
Ouais.
Alors, j'allais juste sur mon...
Il reste 2 minutes.
J'allais juste sur mon troisième indicateur, et Luc, vous en avez parlé, et je trouve qu'il est absolument essentiel. Donc, premier chiffre, nombre d'entrepreneurs qu'on accompagne. Deuxième chiffre, on explique que 50% ne passe pas le cap des 3 ans. Le troisième chiffre, je suis incapable de vous le donner. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est le plus important. c'est le nombre de vies qu'on a sauvées en accompagnant les personnes. Et on est incapable de vous dire combien. Mais on sait, l'un et l'autre, qu'on en a sauvé, je ne vais pas dire beaucoup, et j'espère que ce n'est pas beaucoup, mais qu'on en a sauvé, et ça c'est essentiel.
Merci à vous.
Aurélie, nos bénévoles.
Nos bénévoles.
Quand vous avez créé votre business, pour terminer, vous aviez minimisé les risques ou les difficultés de l'entreprise, de l'entrepreneur.
Je ne l'avais pas minimisé, je ne l'avais pas conscientisé tout court.
Et voilà.
Voilà, je savais que ça allait être dur, mais on peut pas, enfin, je ne pouvais pas imaginer ce que ça allait être.
Vous feriez quoi différemment aujourd'hui si vous créiez votre boulangerie?
Je me ferais certainement accompagner dès le départ un peu plus. Et puis peut-être que je ne le ferais pas toute seule. Peut-être que je n'ouvrirais pas une boutique toute seule.
Parce que le sens, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Hein. Il y a effectivement des données économiques au départ et des chiffres qu'il faut avoir, vaut mieux les avoir. Dans la formation pour faire son entreprise. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans cette émission. Ça se passait trop vite, hein, quand on écoute les témoignages comme ça, c'est toujours vraiment passionnant. Merci Philippe Pourquet, président des associations 60 000 rebonds. Merci Luc Larry, entrepreneur dans le bâtiment, ambassadeur de 60 000 rebonds. Dimitri Pivot, président fondateur de Second Souffle. Aurélie Ribet, entrepreneuse, boulangère à Paris. Quel arrondissement?
Le 10e.
Le 10e arrondissement de Paris. Merci à tous les quatre d'être venus témoigner de cette situation. Patron, c'est pas facile, mais franchement, ça donne quand même envie quand on écoute les aventures que ça représente dans une vie. Merci d'avoir suivi cette émission avec vous, que vous retrouvez tous les jours en podcast, en replay et sur notre antenne à 12h30. Très bonne journée sur BFM Business.
Avec vous sur BFM Business.